Est-ce que vous vous rappelez d'il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on avait parlé? Il y avait 2 juges en particulier. Deux petits juges, un ou deux versets.
Les noms,
Non, mais sans oublier les noms, parce que les noms, c'est un gros défi à se rappeler. Okay? Je pense qu'il y a Yair et... J'ai oublié. J'allais dire John, mais... Hein? Yolam. Bonjour. Dolam ou Yota?
Tola, fils de Poua.
Tola, ouais.
Et l'autre,
c'était Yahir. Yahir. Donc, on voit deux petits juges. C'est un qui est très peu délivré, pas de détails, on sait juste que Dieu l'a utilisé. Et l'autre qui semblait comme un chef, pas vrai? Qui semblait comme, on dirait, un petit goût de la royauté. Qui va venir plus tard, que l'Israël va demander plus tard dans 1 Samuel. Et puis on a vu comment que l'Éternel les a corrigés parce qu'ils ont été après les idoles d'autour d'Israël. Waouh! Puis on a vu une repentance. On a vu au début cri, mais avec un semblant de repentance. Puis après ça, on a vu une repentance, mais qui a amené des actions. Vous vous rappelez de ça? Et que l'Éternel a un peu tardé avant d'agir. Chapitre 10. Chapitre 10 que j'aime beaucoup, parce que ça parle de notre cœur. Ça parle de comment, que est-ce qu'on est vraiment repentant ou on a des remords. C'est un changement, un dilemme. Donc, on est encore dans l'île des juges. J'aime ce rappel, lorsque l'Éternel leur citait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie des juges, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. C'est triste, hein? Mais c'est un narratif qui est important pour comprendre tout le livre des juges. Okay? On a vu dans la... Donc on voit toujours le même cycle dans le livre des juges. On ne veut pas oublier. Au début... L'Éternel, les Israélites ont quitté, ont laissé l'Éternel pour d'autres dieux. Donc, littéralement, sont alliés avec d'autres dieux. Et on voit comment l'Éternel les poursuit, hein. Les corrige, ils suivent le juge, ils retombent, et ainsi de suite. Histoire triste. Là, on a vu Tola et Yahir ensemble, il y a 2 semaines. Là, on est dans Jephté. Je veux juste vous dire que la plus grosse histoire, là, c'est Samson. OK? Mais comme le texte dit dans le chapitre 2, ça va de pire en pire. Mais l'Éternel est avec le juge. Donc, il y a comme... Il va voir... On va ressentir des fois des contradictions, là, dans le texte. Mais il faut juste pas oublier le chapitre 2, qui est l'introduction. Qui nous dit comment l'Éternel nous poursuit, même dans notre rébellion, même dans notre faiblesse. Donc, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on ne verra pas le chapitre 12, parce que le chapitre 12 est relié avec les 4 ici. Il y a quelque chose de similaire. Donc, je vais laisser... C'est Agaï qui va amener. Donc, je ne vais pas dire Agaï quoi, mais il y a quelque chose de similaire dans tout le chapitre 12. Donc, on ne verra pas la fin de Jephté ensemble aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas. Hein? Je ne veux pas le dire parce que, mais il y a quelque chose ici, là, qui se passe, qui est tout similaire. Il y a une ligne conductrice. Donc, je peux comprendre pourquoi que celui qui a fait les chapitres, je pense que c'est Jérôme, dans le temps, voilà. Celui qui a mis les chapitres, je peux comprendre pourquoi qu'il a mis la fin de Jephté avec les 3 autres ici. Parce qu'il y a une ligne conductrice. Ok, mais je vais laisser Agaï nous le présenter, d'accord? Comment?
S'arranger avec ça.
Oui, bah s'arranger avec ça. Ok, mais j'avoue que j'étais tenté d'aller jusqu'à 7. Mais oui, je sais. Mais on risque de perdre cette trajectoire. Mais je veux juste vous dire, il y a quelque chose ensemble qui revient pour les quatre. Là, tu dis, ouf, OK, c'est pas superbe. Juste un petit indice, là. Regardez le nombre d'années. Non, je ne vais pas le dire, mais regardez le nombre d'années comparé aux années d'avant, là. Des 40, 80, c'est pas 40. Ah, tout d'un coup, 6, 7, 10, 8. Je vous donne un petit indice, là. OK. Je veux juste un petit indice, là. Donc, j'aime mes tableaux comme ça. Ça donne juste une image assez claire que qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle, Jephthé est de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est les barrières naturelles. Je veux juste vous rappeler. Donc, quand on va lire au chapitre 12, qu'est-ce qui se passe à la fin de la vie de Jephthé? Ça, Éphraïm est ici. Okay. Juste que vous compreniez que tout ce qu'ils vont faire là, c'est traverser un Jourdain là. Donc je vais juste vous amener à pour vous démontrer comment le peuple va être, mais on n'est pas là encore là. Donc ça c'est pour dans deux semaines. Ok. J'aime les cartes parce que ça nous aide à voir vraiment. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans... Et pourquoi que ça ne marche pas? Oh, aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe? OK, excuse-moi. Dans le chapitre 11 qu'on va lire, j'ai séparé ça en 5. Je voulais marquer les 5 fois que Jephthé a des communications. 5 actions, 5 communications, 5 fois que Jephthé va... à une dispute, à un problème. 5. Maintenant, soyez pas étonnés que ici c'est une grande partie, des grands versets, mais on risque de passer un peu plus de temps sur qu'est-ce qui a coulé beaucoup plus d'encre dans nos milieux évangéliques, baptistes en particulier. Mais c'est comme 3 versets. Donc, on va essayer de comprendre. Il va falloir que vous fassiez une idée. Je vais vous dire ce que je pense, mais je vais aller tranquillement, pas trop. Donc, juste pour l'instant, qui pourrait lire pour nous verset 1 à 11, s'il vous plaît. Waouh! Qui est Jephthé? Non. Si vous avez dit fils de... Il y a eu plusieurs réponses. Si vous avez dit fils de Galaad, c'est bon. Ça, c'est une région, en passant. Okay? Une grande région. C'est même pas une tribu, c'est une région. Mais il est aussi fils d'une prostituée qui n'est pas israélite. C'est une fils d'une étrangère. Allez, Seigneur, d'Israël.
Moi, je pensais que Galaad était aussi le nom de Nord.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais c'est une région.
Oui, c'est une région.
Oui. Oui, mais c'est pas.
Vient de lui.
C'est ça. Oui. Mais Galaad, il est mort depuis longtemps.
Oui.
Mais c'est une région que Gaal avec ses enfants ont pris.
Alors, ce que tu es en train de dire là, quand on parle dans ce texte-là, Galaad est déjà mort.
Oui. Galaad, c'est tout ça à peu près. Ça prend un peu de Manassé. C'est tout ça. Donc, c'est une région habitée par un ancêtre. Mais un ancêtre, il y a plusieurs années. Donc, il a pris plusieurs... Il avait habité là. Donc, c'est un peu dans Gad, avant Ruben, un peu dans Manassé. Donc, c'est comme toute une famille, une grande famille.
Mais là, si on parle du père de Jephthé, c'est un autre Galaad. C'est un autre qui a pris le même nom.
Oui.
Oui.
C'est la femme de
Galaad. Oui. Exactement. Ce nom de monsieur... Non, son père s'appelle Galaad, mais c'est pas le père.
Non, c'est pas le père.
Non, je suis d'accord.
Ok. Donc, parce que c'est, il y a le terme région et il y a le terme père immédiat, mais le père de Galaad, ça mène à celui qui a créé. Mais c'est même pas une tribu là, mais c'est même pas une tribu.
Hein.
Oui, une forte région, à vrai dire. Et c'est une forte région avant le Jourdain. Parce qu'il y a eu beaucoup de guerres pour Galaad. C'est là que Josué est rentré, hein, dans le Canaan. Mais avant, ils se sont battus. Il va un peu en parler, Jephté, dans chapitre 11. Mais Jephté est le fils. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le texte? Qu'est-ce qui est marquant? Juste avant qu'il soit rejeté. Il y a quelque chose, verset 1, qui nous décrit...
Pourquoi tu dis la femme n'est pas juive?
Donc c'est le terme, c'est, dans l'original, c'est prostituée et étrangère, c'est le même mot. Quand on lit femme prostituée, donc ça peut être une prostituée...
C'est pas ce qu'il nous dit, il va dire pourquoi? Toi, tu as dit qu'elle n'était pas juive.
Oui, parce que je pense que c'est, parce que le terme utilisé pour prostituée, elle veut dire aussi étrangère. Non, il y a des prostituées, des filles, on sait que c'est...
Il y en avait des prostituées.
Oui, il y en avait. Judas, et Tamar.
Ouais.
Donc là, on sait qu'elle était prostituée. Mais quand c'est pas écrit, il est très fort probable que c'est une femme de l'extérieur. Parce que là, il dit, tu ne vas pas hériter avec nous. Donc ta mère ne fait pas partie non plus de notre clan non plus. Donc on te met dehors.
Ben, il parle de la région de son père.
Oui, mais si sa mère était une de la région, donc il y aurait droit d'héritage à Galaad. Non, mais si la mère...
Moi, j'ai compris que le père, qui s'appelait Galaad,
oui,
a eu une prostituée, puis avec cette prostituée-là,
il a eu...
Et lui, Galaad, a eu...
D'autres enfants.
Oui, mais Galaad...
Moi, c'est comme ça que j'avais...
Je comprends, mais... Là où ils sont où? Là, ils sont... les anciens sont ici. Lui, Jephté, il était parti jusque-là.
Oui,
il est chassé
par ses frères.
Par ses frères.
C'est
demi-frères. OK?
C'est
mais s'il est parti, il est chassé par ses demi-frères. Donc, ça veut dire que sa mère ne fait pas partie non plus du clan. Non plus. C'est pas réjouissant, mais comme Tamar, qui s'est prostituée, elle était dans la même région, elle n'était pas chassée, elle était fille de la région aussi. Est-ce que vous saisissez?
Je t'entends.
Ok, d'accord. Pas obligé d'être d'accord, mais je veux vous dire que le fait qu'il est parti, généralement, ça veut dire que tu n'es pas dans la région. On te rejette parce que tu n'es pas complètement, tu n'as pas tout le sang de la famille. Donc c'est une femme qui n'est pas...
C'est pas une femme légitime.
C'est plus qu'une femme légitime, c'est pas une femme qui est même dans notre... est-ce que tu peux avoir une prostituée qui est la fille d'un autre là, qui se prostitue? Là, c'est à l'extérieur. Elle sort.
Ce qu'il dit, c'est quand tu n'es le fils d'une autre femme. Comment dire, si ça a été le fils de...
La même femme.
La femme, il n'y a pas eu de problème.
C'est des demi-frères.
C'est ça.
Oui, mais pourquoi alors qu'ils seraient partis loin comme ça?
Parce qu'ils l'ont rejeté.
Ils l'ont tué. Ils
l'ont tué.
Sauf si un vaillant homme... Verset 1. Donc il était...
Non, parce que tu veux...
Oui, exactement. C'est pour ça que c'est important. Parce que sa description de Jephté, c'est parce que ça veut dire que c'est un guerrier, que c'est un gars qui était fort et réputé pour sa force. Donc c'est pour ça aussi que les anciens vont aller le chercher après aussi. En même temps. Donc c'est pas n'importe qui, mais on le met dehors. On dit non, on ne veut pas que tu hérites avec nous. On ne veut pas que tu aies une postérité avec nous. Parce qu'on n'a pas la même mère. Donc, même si ce serait les frères qui disent dehors, le fait qu'ils mettent dehors, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un qui domine sur lui, sur eux. Ils refusent cette domination parce qu'une raison, parce qu'il est fort. Il y a de la force.
Et c'est eux qui vont avoir besoin de lui après.
Ça, on ne sait pas. Ça, je ne peux pas... C'est à partir de mes pensées, mais il y a un commentateur qui le dit, qu'il pense que c'est ça. Mais pour de vrai, on ne sait pas. Mais le fait qu'il a mis deux... qu'il est parti loin, qu'il a mis dehors, il dit c'est un refus que tu prends sur nous. Parce que tu n'es pas un saint parfait. Tu n'es pas complètement parmi nous. Donc, c'est déjà un rejet de sa personne. Mais s'il serait faible, il l'aurait dominé, ça serait comme un esclave, pour de vrai. il serait esclave. Je fais partie de ceux qui pensent que les anciens ont eu peur de lui. Parce qu'il était fort.
C'est pas qu'il hérite, en fait, c'est une question d'argent.
C'est plus que d'argent, c'est aussi de pouvoir parce qu'il est fort. Parce que ceux qui étaient mélangés étaient réduits en esclavage. Et là, non, on ne peut pas t'avoir. On le met dehors. Va-t'en. Est-ce que vous voyez ce que... Donc, pour moi, c'est... Pour moi, là, je vous donne ma position. Pour moi, c'est assez clair qu'ils avaient une crainte de Jephthé. Et je pense qu'à précision, verset 1, était un vaillant guerrier, nous donne le motif des anciens.
Mais ce n'est pas les anciens qui rejettent. C'est ses frères, c'est ses demi-frères. Il n'est pas marqué, c'est pas marqué qu'il était rejeté par le peuple, par les anciens, par les responsables. C'est juste ses frères.
C'est un bon commentaire, Pierre. Je me suis trompé. T'as raison. T'as absolument raison. T'as absolument raison. Moi, j'ai toujours pris que c'est les anciens. T'as absolument raison. Non, c'est seulement ses frères. C'est seulement, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Merci de la correction.
Si je comprends la chronologie, Jephthé, c'était le premier-né. Parce qu'après, il dit, la femme de Galaad n'enfanta des fils. Et c'est après, au verset 2. Parce qu'il était le premier, donc il avait plus pas de la famille aussi.
Je peux pas savoir. Est-ce que c'est un résumé ou est-ce que c'est chronologique?
Si on regarde chronologiquement, c'est ça.
C'est ça, ouais. C'est chronologique.
Si c'est chronologique, moi, j'y crois un peu, mais je ne veux pas le dire, parce que s'il serait resté, il aurait dominé sur ses frères.
De toute façon.
Et c'est pour ça qu'ils l'ont chassé. Il y avait un risque de domination.
Les anciens aussi, ils l'ont rejeté.
Ben, comment tu vois ça?
Les anciens l'ont pas rejeté.
Mais dans la négociation, mais ce que Pierre a dit, c'est vrai.
Les anciens, si vous voulez ramener pour combattre, et puis il dit, non, là, c'est vous qui m'avez rejeté, puis là, vous me demandez de
revenir.
Il dit ça aux anciens.
Oui, il dit, exactement. Ouais. Mais au verset 3, c'est ses frères qui l'envoya. Ok. Mais on voit, mais lui, il dit que c'est les anciens. Il met tout le monde dedans.
Oui.
C'est là qu'il y a un double. Oui, mais il y a un double jeu. Il y a un double jeu entre père, génération, comme je vous dis au début, et la nation Galaad. Il y a deux termes ici. Il y a le terme engendré, que j'oublie c'est quoi en hébreu. Et puis il y a le terme de nation de Galaad. Donc c'est jouer les deux ensemble. Ok, donc le terme de nation et le terme de engendrer est joué ensemble. Au début, il parle de père, après il va parler de nation. Donc c'est pour ça que la région de Galaad était connue comme une région de Galaad. Mais on sait qu'il y a eu un père, un gars qui s'appelait Galaad, qui a fait plein d'enfants. Maintenant, on sait. Mais maintenant, il y a son père qui s'appelle Galaad aussi. Donc le jeu de mots peut nous mélanger.
Mais il vient de
là, c'est une région. C'est exactement. Donc ça, c'est un peu mélangeant. Mais par contre, qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce que le texte veut nous montrer dans le 1 à 11? Jephthé n'est pas n'importe qui. Il est fort. Il sait se battre. Il sait comment aller vaincre des guerres. Ça, on ne veut pas oublier. Et on ne veut pas oublier que ses frères ou les anciens. Et les anciens, à mon avis, mais ses frères ne veulent pas qu'il domine sur lui. La seule manière, on ne peut pas le tuer, parce qu'il est fort. Donc on le chasse, tout le monde le refuse, avant qu'il y ait des enfants qui dominent sur nous. Est-ce que tout le monde voit?
Alors pour toi, c'est ton résumé des 11 versets.
Les 11 versets, c'est que Jephthé est fort et a été rejeté par ses saints. Donc, pour moi, ça me fait rappeler un peu à Jésus, qui était magnifique et qui détonnait parmi tous les autres prophètes. Mais on ne voulait pas qu'il règne sur nous.
Mais pourquoi les anciens l'ont chassé? Est-ce que c'est parce qu'il était le fils d'une prostituée? Ou...
Le texte dit que c'est parce qu'il était le fils d'une prostituée.
C'est ses frères.
Tu vois? Donc, comme tu n'es pas sans parfait comme nous, dehors.
Ça, on peut le comprendre.
Oui, mais c'est avec le, quand, la discussion qu'il y a avec les anciens, la nation l'a rejeté. C'est pas seulement juste sa famille immédiate.
C'est la nation qui fait appel à lui maintenant.
Exactement. C'est le notable de la ville qui fait affaire. À vous dire, le thème, c'est vous m'avez haï.
C'est terrible pareil, parce qu'il est devenu une prostituée, mais il n'a pas voulu.
Mais l'héritage était fort et la puissance, celui qui a géré, avait une grande part. Donc avant que le papa décède, vaut mieux faire partir. Oui, parce qu'il y avait la part double s'il héritait. Donc il gérait la ville, il allait gérer la ville, la région. Donc c'est fort cela comme statut et c'était automatique. Dans ce temps-là, il fallait qu'on fasse comme Abimelech, sinon, qu'on tue tout le monde. Mais là, c'est un vaillant guerrier qui sait se battre, qui sait aller à la guerre. Je ne sais pas si vous voyez le contraste que l'auteur veut nous montrer. Donc, il était rejeté parmi les siens.
Mais tout ça, je pense que c'est le choix de l'homme. Il veut nous montrer le choix de l'homme qui était... Rejeté d'abord, on parle de fils d'une prostituée que Dieu m'a choisi pour être à la tête de son peuple. On voit dans le verset 3 des gens de rien.
Oui, ça attache à lui.
Ensuite, c'est des gens de rien. Il est rejeté, fils de prostituée. Des gens de rien se rassemblent autour de lui. Là.
Mais il est rejeté. Il est rejeté.
Là, c'est ce gars-là que Dieu m'a choisi.
C'est arrivé à David aussi.
Oui, oui.
David.
Oui.
Les 300 hommes de David étaient des gens de rien. C'est plus proche.
Le prétexte c'est des gens qui n'avaient pas de valeur.
Qui n'avaient pas de valeur, ou bien qui étaient aussi femmes. Mais plus que simple. Non, péjoratif. Donc c'est pas juste qu'ils étaient méchants, ça on ne sait pas, mais ils n'étaient pas considérés par les gens. Comme les disciples de Jésus, qui étaient pécheurs, c'était le plus bas travail était pécheur.
Oui, c'est ça.
Non, Jésus est parti prendre qui? La majorité? Des pécheurs. Donc, il y a quand même un genre de ressemblance, sans dire que... Ok. Mais il y a des ressemblances, on dirait un type du futur Messie, du futur Sauveur, le rejeté, mais choisi par Dieu. Donc, on voit... Oups. On voit que je rejeté par sa famille, marginalisé socialement, mais Dieu le relève... par rapport à son passé brisé. Le texte insiste sur un contraste d'estime humaine. Comment les hommes regardent... Ouais. Vous ne savez pas si vous vous rappelez Samuel, qu'est-ce qui va arriver plus tard, comment Dieu dit à Samuel, l'homme regarde au physique, parce que tu fermes les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc je pense que Jephthé était bien disposé, choisi par Dieu, voulu, un modèle pour nous.
Oui. Et pour appuyer ce que tu dis, là, c'est le verset 9 qui me pousse à dire cela. En fait, ce que tu dis là, qui connaissait l'Éternel, quand même, qui avait un crainte de l'Éternel, parce que le verset 9, on parle que, il dit, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amon, et que l'Éternel est vaillant, le monde le sait. Là, il dit, bien, si tu m'amènes, il comprend que c'est l'Éternel qui va donner la victoire. Il y a quand même une disposition du cœur là.
Ouais, mais il y a plus que ça qui le démontre, qu'on va dans le prochain partie, hein. Mais tu as absolument raison. Mais j'allais dire ça dans la prochaine partie. Non, mais c'est bon. C'est très bon. C'est très bon. Dans la prochaine partie, on va encore plus que c'est un homme de l'Éternel. Un homme qui connaît les Écritures. Oui, fils de prostituée. OK? Celui, et l'élection divine. Celui que les hommes repoussent, Dieu utilise pour délivrer son peuple. Ça ne ressemble pas à notre Seigneur? Non. Cela souligne la grâce de Dieu, qui n'est pas limitée par l'histoire blessée par d'un homme. Par son histoire qui n'avait rien à faire. Donc lui, il est parti loin. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer où est Tob. C'est loin. Donc les anciens, là, il fallait qu'ils aillent loin. Mais ils avaient rejeté les idoles. Les anciens avaient rejeté les idoles. Puis ils se sont souvenus de Jephthé. Faut pas oublier le début du chapitre 10, là. La fin du chapitre 10. Ils avaient rejeté les idoles au chapitre 10. Donc ils attendent un sauveur. Puis ils se sont rappelés de Jephthé. Je trouve ça beau. C'est lui qu'ils avaient rejeté. C'est ce qui va arriver à Israël après la mort et la résurrection de Jésus. Ils vont aller rechercher, plusieurs juifs vont aller chercher Christ. Ils vont se confier, ils vont dire, ouf, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous vous rappelez, quand le premier discours de Pierre, acte 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a tué Jésus. C'est là qu'il y a eu 5000 conversions? 3000, merci. 3000 conversions et baptisés. Donc ça devrait nous faire passer attention à comment on regarde les gens. Est-ce qu'on regarde à cause de leur histoire? Ou comment est-ce qu'on regarde comme Dieu? David, derrière, qui gardait les brebis. Et puis il dit non, va me chercher. Il y a encore un autre encore. D'habitude, on va prendre le premier-né, non? Le plus grand, c'est lui qui paraît mieux. Comme Saül. L'apparence.
Cela comprend aussi que toute l'écriture révèle Jésus-Christ, parle de Christ. Dans des petits détails comme ça, là. C'est de Christ que ça parle.
Ouais. Et je pense que tous les juges parlent. Bon, depuis le commencement, mais je pense que dans le livre des juges, en particulier tous les juges, incluant Samson qu'on va voir, qui est plus problématique, dans les interprétations, parle du vrai sauveur. Tous les juges.
Le libérateur.
Ouais.
Donc, c'est-à-dire que même Samson, en mourant, il a délivré tout le peuple, tous les responsables, les Philistins, tout ce qui
est. Il n'est pas ressuscité.
Oui, il n'est pas ressuscité. Mais restons avec Jephthé. OK? Restons avec Jephthé. On aura beaucoup à dire rendu là, énormément même. Mais Jephthé, mon but, c'est de vous montrer que comment Jephthé est mal compris, dénigré par ses siens. Si vous croyez que c'est la famille, si vous croyez que c'est la nation ou les deux, il est dénigré, rejeté. Par contre, j'ai marqué choisi par. J'ai marqué choisi par Dieu. On ne sait pas encore qui est choisi par Dieu encore maintenant. Je veux juste vous dire, c'est moi qui l'a mis. OK? Volontairement. OK? Mais on ne sait pas encore dans le verset 1 à 11 qui est choisi par Dieu. OK? Je veux juste vous dire, on ne sait pas encore. Donc, je m'attendais à une question comme ça. Mais on ne sait pas encore. OK? Mais c'est volontairement moi qui l'a mis comme titre, hein, que je vous prédispose. Et de là, verset 12, Jephthé va avoir une autre forme de discussion. Donc, il descend à Mitzpah. Mitzpah, c'est ici. Une ville qui, on a encore les ruines. En Israël.
C'est le même Mitzpah dont on parle aujourd'hui.
Oui. Oui. Puis, Soukot est à côté. Puis, il y avait une autre ville que je voulais vous montrer. Ici, Aher, qu'on va lire tantôt. Aher est là, OK? OK, donc Mitzpat est là, Aher est là, ce qu'on va lire tantôt. Galaad, c'est tout ici. OK?
Quand ils disent les anciens de Galaad, ça veut dire les anciens de toute la région.
C'est Galaad. Ouais, c'est comme une grande région, c'est une grande ville. Donc c'est les anciens, les dirigeants, les notables de Galaad. OK? Donc Galaad n'est pas une tribu, c'est pour ça, mais c'est une région connue.
OK.
Il faut pas
confondre
avec Gad.
Exactement. C'est une partie, il y a une partie de Gad qui est une tribu. OK? Et que Manassé est une tribu aussi. OK? Oui, exactement. Galaad, c'est une région. Donc, c'est pour ça que dans le quartier quantique, les montagnes de Galaad. OK? Donc, c'est une région. OK? Mais en même temps, c'est un père aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a existé pour de vrai. Et on pense qu'il y a eu plusieurs Galaad.
Ah oui,
ça fait au moins deux. Mais je veux juste vous dire, papa, c'est un peu complexe des fois à distinguer. Donc, les anciens s'en vont à Tob et à Tob et ils ont conclu que tu dois être notre chef. Donc, ils descendent à Mizpa. Je vais vous dire dans le texte, ici, là, Nora, non, Arer, c'est ici. D'accord? Il faut juste regarder la map qu'on va lire pour que vous compreniez les distances, là. Oh non, ça j'ai pas. Ça j'ai pas. J'ai pas trouvé, je ne sais pas. Je pense que ça serait trop spéculatif. Mais de vu d'en haut, on a une petite idée.
Regarde, il y a une échelle en bas.
Oui, mais j'essaie de pas trop parce que ça fait 2000 ans. Ça fait 3000 ans, 3000 quelque chose ans, plus que 3000 ans. Donc c'est un peu difficile à évaluer qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, tremblement de terre, tout ça. Donc, mais ça donne une petite idée de distance. C'est pas proche.
Et à côté, c'est le désert, j'imagine.
Ici?
Non, plus haut.
Ça, c'est l'Irak. Donc, c'est en Irak.
Oui, c'est en Irak. C'est pas en Israël. C'est pas en Israël.
Le Jordanie.
Parce qu'il a été, chassé à l'extérieur de Israël. OK?
À Babylone.
Babylone est plus loin. Là-bas. OK. Mais il faut juste être conscient. Il est sorti d'Israël. Là, ils vont chercher. OK.
Au moins 100 kilomètres. Parce que je regarde mon voyage. Allô, je suis un mot de cette voie.
Qui peut lire pour nous? 12 à 28, s'il vous plaît. C'est juste pour vous... que vous ayez une idée là de distance. Waouh, merci beaucoup. Une chance que tu as lu, ma sœur, parce que je m'aurais mélangé aussi avec des termes. Donc, en résumé, il fait plus que ça. À mon avis, il fait plus que ça.
Le problème que Sintim se dit, c'est le fils de prostituée et tu dis qu'il va juste, qui connaît tout ça.
Il fait encore plus, et c'est là qu'on voit que c'est un homme qui connaît les Écritures. Il connaît les Écritures. Ce qu'il rapporte, c'est un résumé de nombre 21 à nombre 24.
Est-ce que les parents ont répété de génération en génération?
Certains parents.
Certains.
Dieu. Mais Dieu. Moi, a,
fils de prostituée. C'est ça, c'est...
Bon, ça c'est un terme. C'est juste que c'est un terme parce que quand vous allez lire dans les proverbes, la prostituée, mais c'est l'étrangère pour de vrai. Donc il faut juste savoir.
Prostituée, c'est prostituée. Tu ne peux pas dire qu'une étrangère, elles sont toutes prostituées.
Non, mais c'est un terme pour dire que c'est une fille de dehors, haïsseur, qui ne fait pas comme l'Éternel demande, donc sont prostituées. Mais ça, c'est dans Lévitique. Parce que quand il parle d'alliance, de coucher avec, c'est le même terme qui tu dis. Oui, c'est une procession
devant Dieu.
Tu vois?
Depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne un guerrier, il y en a eu bien des années où il était avec le peuple d'Israël. Donc là, il avait connaissance mais quand même de toute cette histoire.
Je ne veux même pas dire pour comment, je ne sais pas pour de vrai, mais c'est ma déduction. Dans sa jeunesse, il a appris. Et peut-être qu'il a recherché aussi dans l'âge adulte.
Il y a les Lévites sont là aussi?
Oui, mais pour moi, mais les Lévites ne faisaient pas bien leur travail dans ça là. Exactement. C'est là qu'on voit ce nom de l'Éternel.
C'est ça.
Il rapporte pour contrer les mensonges d'un étranger. Il rapporte pour dire, ce que tu me dis là, ce n'est pas vrai. Il contrit la vérité. Il contrit les mensonges par la vérité biblique. Ça, c'est un message pour nous. Il fait un résumé de 4 chapitres, 21 à 24. Et l'ombre est un des 3 livres qu'on lit le moins dans la parole de Dieu. Pour les chrétiens évangéliques, en passant. Avec Lévitique et Cantique des Cantiques. Dans les statistiques, hein. Dans les statistiques, je ne le dis pas nous, mais dans les statistiques. OK? Et puis, Jephté, en train de faire un résumé, un des 3 livres que nous, on lit le moins. D'une période. Jephté est en train de faire un résumé d'un des 3 livres qu'on lit, que les évangéliques lisent le moins, il paraît. Et lui, il dit, il est en train de citer, il veut dire, voici qu'est-ce que l'Éternel a fait. Voici. Il nous a donné. On a réagi et Dieu nous a donné la victoire. On l'a pris. Ça fait 300 ans. Et il fait juste dire les faits.
Il y a une histoire.
Il dit, et puis, maintenant, donc, de là, moi, je crois que c'est un homme fidèle à l'Éternel. C'est un modèle. Bon, il fait une petite erreur. Il rappelle, parce que Dieu avait dit de ne pas apprendre sur les dieux des autres nations, bon, d'autres renommes. Et là, il rappelle, comme les. Comment qui sait? Il ne peut pas se poser, apprendre les autres dieux. Ça se fait que c'est là. Ils sont entourés, mais chapitre 10, qu'est-ce que faisait, qu'est-ce qu'adorait Israël? Que moi, j'étais un d'entre eux, un des quatre. C'est sûr qu'ils savaient, parce qu'il y avait de l'idolâtrie dans Israël.
Ben, c'est comme nous, ici, présentement, tu sais, en tant que chrétiens, on est confrontés à toutes sortes de
d'idoles.
D'idoles, d'influence, oui, merci. T'sais, alors, on est au courant, mais ça ne veut pas dire qu'on...
D'ailleurs,
oui. Ton Dieu. Oh oui, clair. C'est pas. C'est pour. Non, c'est juste pour montrer comment c'est un enfant de Dieu, clair. Ah, mais peut-être qu'il y a. S'il a recherché savoir ce que sera leur Dieu, ça, là, il a fait fautif. Si c'est juste parce qu'il a entendu et qu'il a vu, là, il fait une référence. Donc, il dit, il n'y a aucune faute. Donc, Jephthé est un modèle pour nous. Il combat la vérité par le mensonge. Ça, c'est beau.
Je te pose une question.
Oui.
Parce que tu. Des études, etc. Là, et moi, le problème que j'ai avec les institutions, les séminaires bibliques, théologiques, là, ils donnent un doctorat, je pense, en divinité. Et quand j'ai demandé à quelqu'un qui a fait un doctorat en divinité, il dit, qu'est-ce que tu apprends en divinité? Il dit, on apprend les autres dieux. Ça, j'ai la misère avec ça. Pourquoi j'aurais besoin de faire une étude? Pour connaître les autres
trucs. Je sais pas, mais ça c'est pas. Bon, ça je sais pas, mais va pas là-bas. Ok. Oui, je connais ça, mais ça c'est une place que j'irai pas, par exemple.
Bien réussir. On va vous connaître l'ennemi. Parce que si on ne connaît pas les tactiques ou qui est l'ennemi, on peut pas.
Oui, mais en même temps, pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, connais le vrai, tu vas connaître le faux.
Comment?
Pour savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, soit espère du vrai, tu vas savoir qu'est-ce qui est faux. Ça veut dire que puisque tu connais qu'est-ce qui est vrai, tout ce qui déraille de ce qui est vrai, tu vas savoir que c'est faux.
Parce que pour témoigner aux musulmans, par exemple, c'est bon de connaître ce qu'ils croient. Puis, ça nous implique une certaine connaissance de l'autre.
Mais c'est une différence de connaissance, mais d'étudier, c'est autre chose. Moi, je vois une différence entre les deux. Oui.
En fait, c'est que c'est une question de vision du monde, mais le fait d'avoir un diplôme avec les fausses divinités, c'est un peu trop loin. Tu vas connaître, oui.
Oui, tu vas connaître, mais tu vas étudier.
Là. Étudier, ça c'est autre chose.
On a fait des cours sur les fausses doctrines. Je crois que c'est assez, mais aller chercher un doctorat, ça.
Ça c'est fort.
Ce n'est pas des universités aussi avec divinité comme. Il y a certaines universités bibliques, divinité, c'est pour que tu as appris sur les autres religions.
Oui. Mais c'est juste qu'il faut faire attention de ne pas étudier profondément.
Moi, je ne veux pas te l'enlever dans le sens que quand tu es chrétien,
tu es bien établi.
Tu es solide dans le Seigneur. Mais je ne parle pas de nouveau. Là, okay? Je n'aimerais pas ça. Tu ne vas pas étudier les autres religions à quelqu'un qui est nouveau. Mais quelqu'un qui a plusieurs années, qui est entré dans le Seigneur, on a toute la connaissance, d'aller se renseigner sur les autres pour pouvoir mieux témoigner. Pour pouvoir.
Mais Pierre, déjà, tu n'utilises pas les mêmes termes qu'Isaac. D'étudier et se renseigner, c'est pas pareil.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est dans le sens que ces personnes-là, c'est dans le cadre de leur formation.
C'est principal.
Comment tu fais, tu fais de maîtrise et puis de divinité, mais est-ce qu'ils sont capables de faire la part des choses?
Ben, il me semble.
Chez d'autres, c'est pas forcément parce que un baccalauréat en théologie que tu comprends.
C'est l'Esprit de Dieu.
Je l'espère. Il y a un pied qui sort.
Mais il y a un pied qui divague par la suite. On divague par la suite, c'est ça la différence. Mais si on revient sur Jephté, ok, il y a quelque chose en particulier. Est-ce que dans l'histoire vous remarquez de quoi? C'est les Ammonites, ok? C'est les Ammonites qui sont ici. Ok? Donc ils se sont amis pas. Puis il envoie des messagers, puis il dit, tout ça là, c'est Dieu qui nous a donné. Les Ammonites là, est-ce qu'ils sont dans un nombre 21 à 24? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Oups. Excusez-moi. Excusez-moi. Technologie. L'Éternel a donné à Israël la victoire sur Sion et sur les Amoriens. Ouais. Mais non, sur les Ammonites, sur eux autres mêmes, là. Les Ammonites n'étaient pas attaqués dans le nombre. C'est à côté des Ammonites. Donc le roi Ammonite, là, il réclame de quoi qui est pas à lui.
C'est la frontière.
Oui, oui. C'est la frontière, mais c'est pas à eux. Et c'était pas à eux non plus. Est-ce que vous comprenez?
Donc.
Il dit, rendons-nous pacifiquement. Mais c'est pas à eux. C'était pas à eux non plus. Et si c'était à eux, tu aurais dû le reprendre depuis avant. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas. La vérité confronte le mensonge. Et là, dans ce temps-là, c'est un mensonge politique. C'est une tactique. Fausse raison. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un long texte là, mais qui démontre la foi, à mon avis, de Jephté, mais aussi le mensonge de Amnon, qu'on va revoir plus tard encore en passant dans l'histoire. Plusieurs fois même, jusqu'à David. Donc c'est quand même quelque chose que je veux juste vous montrer. Amnon n'est pas dans l'ombre, à part qu'on passe à côté, à part que le peuple d'Israël passe à côté. Et qu'ils n'ont jamais pris le territoire d'Amnon. Le contraste est fort face à la manipulation politique. Jephté parle avec précision. Il connaît les Écritures. J'espère que je vous ai convaincu qu'il connaît les Écritures. Ok? Non, mais c'est vraiment. Et de là vient, donc je vous ai montré plusieurs fois, donc il les attaque à partir d'ici. Puis il les poursuit jusqu'à c'est le prochain verset. Excusez-moi. Qui peut lire verset 29 à 31? On n'a pas encore lu, c'est pour ça.
L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté, il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galaad, et de Mitzpé de Galaad, il marcha contre les fils d'Amon.
Ok, juste une petite pause, Pat. S'il te plaît. Donc, il part de chez eux, il vient ici, ok, d'accord. D'ici, il envoie des messagers, discussion politique, par la vérité. Là, il voit qu'il n'écoute pas, il les poursuit, il attaque ici, puis il poursuit jusqu'ici. Hey, guerre, belle guerre, hein? Mais il y a un seul verset qui parle de cela, hein? Qui parle de la guerre. Donc ça veut dire qu'il y a un focus ailleurs. C'est rapide.
Il s'en parle.
C'est un verset. Maintenant, peux-tu lire le verset 30 et 31, s'il te plaît?
Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, consacré à l'Éternel et
je l'offrirai
en œuvre.
Oui. C'est ça.
Il passait pas.
Ah, 5.
Là, ce texte-là a eu beaucoup, et la fin aussi, a eu beaucoup d'encre qui ont coulé sur Jephthé. Ouais, ouais. Beaucoup d'encre. Je vais essayer de passer rapidement, parce que je veux aller jusqu'au verset 40. OK? 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 Je vais essayer d'aller jusqu'au verset 40, OK? Avant la bataille, l'Esprit éternel vient sur Jephthé.
Donc, le Seigneur est avec lui.
Exactement. Je veux juste mettre des balises. Mais il prononce un vœu précipité. Est-ce qu'il y a besoin de prononcer le vœu?
Non. Non.
Non, le Seigneur est avec lui. OK?
Quand tu fais un vœu, réfléchis à ce que tu dis.
Est-ce que c'est biblique, cette phrase-là? OK. On va voir ça. On va voir ça si c'est, est-ce que c'est biblique. Jephthé agit. On va lire quelques passages. Quelques. OK? Jephthé agit avec zèle, mais sans discernement. Comme si la ferveur pouvait remplacer l'obéissance à l'Éternel. Comme si ça pouvait remplacer. Le texte ne dit pas, mais sûrement qu'il a été conseillé, mais le texte ne le dit pas. Il est quand même responsable. OK? Il est quand même responsable. Hein?
Le
vœu? Oui.
C'est lui.
C'est lui
qui fait le vœu.
Oui, je sais. Mais il pourrait être, il dit, est-ce qu'il peut être influencé par d'autres? Peut-être, mais le texte ne le dit pas. Le texte, par contre, montre ainsi un instrument réel utilisé par Dieu peut quand même être introduite une erreur spirituelle. Il n'est pas le sauveur qu'on attend. Il n'est pas le Shiloh que Moïse a dit, attendez-le. Il n'est pas le Shiloh. Okay?
Je pense qu'on voit ces choses-là dans la Bible. Les gens ne sont pas parfaits.
Oui. La question qui se pose, verset 29 et 30, implique-t-il une consécration ou un holocauste? Grosse discussion théologique qu'il y a eu. OK? Quand il dit « sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste », littéralement, c'est « il sera », parce que c'est « être » à l'Éternel, et je lui montrerai une offrande entière.
Comme Samuel.
Ou bien, on pourrait penser à une offrande consumée complètement.
Mais il y en a qui disent qu'elle n'a pas été.
Donc, je ne vais pas faire un gros débat, mais pour moi, si...
De Anne. Samuel, fils de Anne,
Il était consacré à l'Éternel. Mais notre consacré, là, il n'est pas dans la Bible. Il a été ajouté. C'est « sera à l'Éternel ».
C'est ça, il appartiendra
à l'Éternel. Oui, il appartiendra à l'Éternel. Okay? Et être à l'Éternel.
Tu aurais pu arrêter là.
Oui.
Maintenant, OK, mais il y a une compréhension de « offrande entière », parce que « holocauste » veut dire... Ola veut dire holocauste, holocauste veut dire avec le feu, ou bien peut dire aussi complète. Aussi, tu feras une complète. C'est Ola aussi, holocauste.
Qu'est-ce que tu veux dire par une complète?
Une offrande complète.
Une offrande complète.
Qui est souvent compris par le feu, souvent. Mais pour moi, à cause que le verset 29, qui précise que l'Esprit de Dieu était sur Jephthé, et que Hébreux 12, 32 mentionne que Jephthé est un modèle de foi, il fait partie de la liste.
On conclut qu'il n'a pas offert son fils, sa fille, sa
belle. Ça veut dire que ça a été, c'est un modèle à suivre. Pas dans toutes ses erreurs, en passant, mais ce modèle de foi.
Comme David aussi.
Exactement. Donc, je veux pas. T'as une question? Ok. Je veux pas dire. Moi, j'ai ma position, mais je ne vais pas me battre au sang. Okay? Je ne pense pas qu'il a offert à l'Éternel cela, brûlé, mais qu'elle a consacré complètement. Tantôt, je vais vous dire un de mes arguments tantôt, quand on va arriver à la fille, quand la fille va parler. Donc, mais juste avant, il connaissait les Écritures, on a vu ça. C'est long à lire, il est 10 heures. Mais ça, ici, ça parle, tu feras pas de vœux, si il y a des personnes, ok? Si tu fais l'estimation d'une fille, ou une fille. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. Et si c'est une femme de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une fille. Pour moi, il y avait une porte de sortie. que Jephthé aurait pu avoir si ça serait consacré par le feu. Il aurait pu la racheter. Est-ce que tu me comprends? Il aurait pu la racheter. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant des abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu les fils et leurs filles en honneur de leur Dieu. Il a déjà, il a déjà dit au roi d'Ammonite, une différence entre ton Dieu et mon Dieu. Pour moi, tu sais, il connaît les Écritures, l'Esprit de Dieu, Hébreu nous dit, Dieu va me dire rendu au ciel, mais j'ai difficulté à croire qu'il l'a brûlé. Et c'est pas tout encore dans mes arguments là. Ça c'est pour nous par contre. Ça c'est pour nous. Jephthé. Ça c'est pour nous. Parce que ça c'est Salomon qui dit ça. Ne presse pas ouvrir ta bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent et multitude des occupations, la voix des sorciers se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est ce qu'il va faire, mais tu ne sais pas comment on y pense. Il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de point faire de vœux que d'en faire un et que tu n'aies pas accompli. Ça, c'est clair, non? Ça, c'est clair? Ça, c'est pour nous. Donc, il y a eu comme un avertissement et on voit que la victoire, un petit verset, juste pour mentionner, en hébreu, c'est moins de mots pour de vrai. Mais il y a un focus sur le vœu de Jephthé pour cette victoire que Dieu l'a comme donné l'esprit dessus. Qui peut lire 32 à 35? On va voir cette victoire-là. Non, jusqu'à 33, c'est bon. Donc, c'est clair pour tout le monde?
Oui.
Donc, vous rappelez la map, hein? Ok, je vais juste vous rappeler rapidement. Ok? Ils sont là. Donc, il les poursuit. Ça veut dire que quand il les poursuit, c'est un massacre. C'est un massacre. Ils sont même pas en Israël. Oui. Parce qu'ils courent, là. Ils perdent. Donc, il y a eu un massacre, défaite. OK? Je vais juste aller un peu plus loin. On va aller 34 à 40. Là, maintenant, ça va se chauffer un tout petit peu. Qui veut aller 34 à 40 pour nous, s'il vous plaît? Donc, pour moi, le fait que plus deux fois c'est mentionné pour sa virginité et non pour sa vie, elle ne plaît pas pour sa vie. Elle plaît pour sa virginité.
Ça va venir un jour, mais c'est dramatique la façon qu'on vient de lire. C'est dramatique.
C'est dramatique parce que une fille qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est dramatique dans ce temps-là. Plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Sa fille unique, pas de prospérité, mais la fille, elle ne pourra pas. Il y avait une connotation de pouvoir faire naître un homme, un garçon. Il y avait un espoir. Donc, je suis une femme, c'est mon rôle, c'est mon identité, presque. Et on le voit dans toutes les Écritures. On voit avec Anne, on voit avec Rachel. C'est très fort. C'est très grave. C'est, littéralement, c'est comme être maudit. C'est jamais dit comme ça, précisément, mais c'est très grave. Donc ça, c'est mon argument.
Une femme se sent par rapport à cela, de pouvoir mettre sur terre un homme.
Selon moi, c'est la suite à la compréhension de Ève, quand Dieu dit au serpent, à travers, et c'est la possibilité de la femme que va venir le sauveur. Et c'est pour ça que Ève appelle Abel, Caïn, celui, et Abel, c'est de trop là. Donc il y a deux là, si vous suivez, Genèse 4, jusqu'à toute l'histoire, jusqu'à Jésus, vous allez voir que les femmes veulent avoir un fils. Pas juste? Je sais, aujourd'hui aussi, mais je parle jusqu'à Jésus, là, dans la parole de Dieu, c'est très intense. Et dans les écrits non bibliques aussi, avoir un fils. Donc oui, c'est vrai que c'est le fils qui va travailler plus pour faire vivre les parents. Mais c'est, il y a une conception de sauveur derrière.
Ma question, c'est pour les femmes d'aujourd'hui.
Ah, d'aujourd'hui, je sais, mais je peux juste te répondre au nouveau biblique. Oui.
Je pensais comme ça quand je dis là, de pouvoir mettre, donner la vie à un homme.
C'est avoir la descendance.
C'est pas seulement ça, c'est un accomplissement. Tu te sens utile.
Tu as
un enfant, tu te sens utile. Peut-être que c'est dans le monde aujourd'hui, c'est probablement pas ça.
Ouais.
Mais en tant que chrétienne, moi, si j'avais pas eu d'enfant, j'aurais été malheureuse.
Malheureusement,
je te l'ai. Oui. Tu sais, on a connu des exemples de sœurs qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et qui était malheureusement.
Je connais des femmes qui dépensent des milliers de
dollars.
Voilà,
oui.
Et il y en a. Il y en a à l'église ici aussi.
C'est un accomplissement pour nous de pouvoir dire on a eu des enfants. Est-ce que c'est parce que c'est le Seigneur qui doit nous mettre ça dans notre cœur?
C'est en nous. Et la parole dit que c'est une bénédiction. Hein? C'est une bénédiction. Mais c'est pour ça que c'est un drame. Cette victoire qu'il y a eu devient un drame. Ça devient une victoire amère. Dieu a délivré son peuple.
Mais il s'est repenti de son
peuple. Oui. Mais il aurait pu la racheter.
Et ça fait lui aussi. T'as parlé trop vite.
Donc il était prêt vraiment à consacrer quelqu'un de sa famille juste par sa fille.
Personne.
Non. Je veux dire qu'il aurait pu changer plus tard, tout ça. Donc, il y a une conception. Dans tous les cas, c'est un drame. Qui a offert un holocauste, ce que je ne pense pas, mais qui a offert un holocauste ou qui a consacré complètement au service du temps, c'est un drame. C'est un drame culturel.
Ok, bien compris. Tu parlais du temple, de la virginité, je ne comprenais pas. Donc, si elle était consacrée au temple, c'est sûr qu'elle ne se marie pas.
C'est parce que sûr, elle ne se marie pas du tout et il n'y a personne pour prendre soin d'elle.
C'est ça. Ok, c'est un ou l'autre.
Comment ça va? C'est
une conséquence tragique.
Mais le Seigneur va s'en occuper, comme
le Seigneur, comme tout le temps. Ok? C'est comme tous. Donc, cette fin oblige, comme ce gros zèle qu'il y avait, ce que j'appelle un zèle religieux. C'est une différence entre ça et une réelle sagesse spirituelle que Dieu nous appelle à avoir. Donc, Salomon écrit dans Ecclésiaste 5, ah, attention, hein, toi t'es sur la terre, lui est au ciel. Donc, ça nous apprendre que, faut faire attention à ce qu'on dit. Connaître bien les Écritures. Et moi, je pense que Jephthé connaissait les Écritures. Moi, je suis de cet avis-là. OK? Mais la sagesse, des fois, nos ailes nous poussent à faire des choses, mais que Dieu ne nous demande pas. Dieu n'a pas demandé ça.
En effet, je comparais avec ça, le roi Saoul et Jephthé, là. Quand Saoul, là, enfin, lui, ses ennemis, il a pris les choses là pour que Wolf fasse le faire au froid à l'Éternel. Mais Jephthé, là, il a parlé de son vœu à l'Éternel et c'est sa fille unique. Et il a quand même accompli son vœu. C'est pas comme ça, là. Moi, je fais une, mais il a pris tout là. Et ça se voit bien que lui, il est vraiment
un homme de parole intègre. Mais mauvaise sagesse.
Oui, c'est ça.
Donc, le mal ne vient pas seulement de l'extérieur.
On pense bien faire.
Mais Dieu utilise des instruments imparfaits.
Pour accomplir son œuvre parfaite.
Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est parfait. Donc, rapidement, rejeté des hommes, choisi par Dieu, victorieux par grâce. Mais Jephthé a été brisé par un cœur mal dirigé. Il n'est pas parfait, notre Jephthé. Notre modèle, il n'est pas parfait. Il nous pointe vers le sauveur parfait. Juge 11 rappelle qu'il y a plus qu'une délivrance extérieure. Il faut aussi une réforme intérieure. Biblique, comme Jephthé. un discernement spirituel et une vraie soumission à la parole de Dieu. L'Éternel n'avait pas demandé de vœux.
Faire un petit commentaire avant que tu continues. Ça me fait penser comment dans l'Église, l'histoire de l'Église, il y a eu des courants qui commençaient après ça à dévier. Par exemple, l'Église catholique, on a rajouté quelque chose parce qu'on voulait tellement plaire à Dieu.
Là, tu m'ouvres une porte. Moi, je vous dis que les pharisiens étaient des vrais pratiquants. Ils ne voulaient pas avoir d'idole. Ils ne voulaient pas quitter être chassés de leur nation. Tellement, ils ont ajouté 1613. J'oublie des milliers. Okay? Plus que 1000 lois pour arriver à mettre en pratique la loi. Ils étaient vraiment religieux. Plus que ça, mais oui. Légaliste, on ne sait pas c'est quoi les légalistes. Au-delà de rigide, ajouter une rigidité à la rigidité. Juste en passant. Comment?
C'est plus la grâce, c'est la loi.
Exactement. Ah oui, c'est la loi humaine. Même pas la loi, qu'est-ce que Dieu dit, c'est la loi humaine. Dieu n'avait rien demandé. La victoire était déjà acquise. L'Esprit de Dieu était avec lui. Une offrande de reconnaissance serait bien. Une victoire donnée par Dieu peut bénir, mais un cœur mal dirigé peut la transformer en tragédie. C'est ça qu'il faut savoir. Nous-mêmes, on est nous-mêmes vulnérables à cela. Oui, ok. Okay. Une victoire donnée par Dieu peut bénir, mais un cœur malheureux peut tomber en tragédie. L'Éternel peut écrire droit, très bien, avec des crayons tordus. Dieu agit parfaitement, même quand ses instruments ne le sont pas. Juste, on nous rappelle que le vrai danger n'est pas seulement à l'extérieur. Et ça, j'aimerais vous le rappeler. Pas seulement à l'extérieur. Nous-mêmes, notre ADN de péché, hein, celui qui ne l'a pas peut se lever debout. Mais si vous avez l'ADN de péché, depuis Genèse 4, vous êtes vulnérable à agir comme ou pire que Jephté. Dieu peut relever les rejetés et les utiliser puissamment. Le succès spirituel apparent n'est pas une preuve de maturité spirituelle. Intérieur. Le zèle sans discernement peut produire des vraies ruines. Et dans deux dimanches, avec Agaï, on va voir comment qui meurt. Et c'est pas la même fin que tous les autres. C'est un des et je vous laisse avec un psaume. Et le verset d'un psaume. Éternel. C'est le psalmiste qui prie cela. Et je nous encourage à prier ça avant de demander à Joël de prier pour nous. Éternel. Mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Le psalmiste prie ça. J'aimerais nous encourager à faire de même, pas tomber, d'apprendre de Jephté un modèle de foi, mais de veiller à notre bouche. De creuser comme la parole, comme Jephté a fait, pour être capable de contrer les mensonges, premièrement nos propres mensonges.